Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement. Nous sommes en plein cœur de Paris, non loin de la place de la Bastille. Ce matin d'hiver s'apprête à basculer dans l'histoire. Engoncé dans un carrefour comme la capitale peut en compter des dizaines, l'immeuble est le refuge d'un journal unique en son genre dans le monde médiatique français, Charlie Hebdo. L'une de ses dessinatrices, Coco, vient de quitter les locaux. Elle descend 4 à 4 les marches menant au hall d'entrée. Elle doit vite aller récupérer sa fille à la crèche. Mais avant, elle peut se permettre une petite cigarette avec Angélique, qui l'accompagne. Coco dessine pour le journal depuis 2008. Elle a connu le changement de propriétaire. Charb et Rhys ont pris la relève de Cabu et Philippe Val, qui ont tourné la page en 2009. Pourtant, comme toujours, Cabu est là aujourd'hui, à la rédaction. Depuis quelques années, une menace latente plane. Charlie Hebdo est pointé du doigt pour ses positions contre l'intégrisme religieux. C'est d'autant plus le cas depuis que le journal a décidé de se mettre à blaguer sur l'islamisme. Coco est très loin d'imaginer ce qui l'attend, là, à la sortie de la cage d'escalier. Alors qu'elle s'apprête à sortir de l'immeuble, deux hommes cagoulés lui font face. Deux figures menaçantes, armées jusqu'aux dents, qui ne recherchent qu'une chose, les locaux de Charlie Hebdo. Nous sommes le 7 janvier 2015. Il est 11h25 et c'est leur H de mon histoire. Minutes avant cette scène terrifiante, deux hommes se tiennent dans la loge du gardien de l'immeuble. Ils viennent faire un repérage du circuit de chauffage. Frédéric Boisseau, le responsable, est en train de fouiller au milieu de ce dédale de câbles. Il doit paramétrer les contrôles d'accès. C'est une opération de routine. Alors que les collègues discutent, deux ombres se glissent derrière eux. Ils n'ont rien le temps de voir venir. Un des frères Kouachi, lancé comme une balle, s'écrie « Charlie !» Il tire. Frédéric Boisseau agonise dans les bras de son collègue et ami. Il est la première victime du drame. Son corps gît là, non loin de la dessinatrice apeurée, qui fait dorénavant face aux assaillants. Les frères Kouachi, bien informés sur leur cible, l'ont reconnue. Ils savent qui elle est. Ce qu'ils ignorent cependant, c'est la localisation exacte des bureaux du journal. Voilà quelques minutes qu'ils traînent dans l'immeuble à leur recherche. Tomber sur la dessinatrice est donc une aubaine pour eux. Ils la somment d'obéir. Ils veulent voir Charb, l'un des directeurs de l'hebdomadaire, immédiatement. Coco hésite un instant. Mais le canon des armes encore chaud de leur première victime la dissuade de tout acte de résistance. L'artiste reprend donc les escaliers qu'elle vient de descendre. Chaque marche montée est une épreuve. Elle ignore qui sont les ombres derrière elle. Tout ce qu'elle peut sentir, au fond de ses tripes, c'est que la suite des événements risque bien d'être on ne peut plus tragique. Chaque pas la guide vers ses amis. Certainement en train de rire autour de la table du comité de rédaction. À cette heure, ils doivent finaliser la trame du numéro à venir. Coco guide ces monstres qui la pressent de leurs armes vers sa tanière, vers ses proches. Pourtant, elle ne peut rien faire d'autre que de les conduire vers leur objectif. Résister et mourir? Non, sa fille l'attend un peu plus loin, à la crèche. Devrait-elle grandir sans sa mère? Il n'empêche, chacune des indications de la dessinatrice est destructrice, pour elle et pour les autres. Un étage, puis un autre, et encore un autre. Bientôt, Coco, en larmes, sort de la cage d'escalier. Elle est comme anesthésiée. Elle pressent que sa vie ne sera plus jamais la même. Mais sans s'en rendre compte, sans même le vouloir, elle vient de commettre une erreur. Elle le comprend quelques secondes seulement après avoir guidé les assaillants dans le couloir. L'angoisse au ventre. Coco se rend compte qu'elle s'est trompée d'étage. Cette erreur risque bien de lui être fatale. Totalement paniquée par les pensées qui lui traversent l'esprit, la dessinatrice se met à genoux. Elle a les mains sur la tête. sans pouvoir contenir ses larmes. Elle implore du bout des lèvres qu'on l'épargne. Elle n'a pas voulu se tromper. L'angoisse est telle qu'elle n'est pas en mesure d'agir avec rationalité. Les frères Kouachi sont fous de rage. Coco est persuadé que l'un d'eux va appuyer sur la détente, l'abattre là, dans le couloir. Alors elle pense à sa fille. Elle perçoit le rire de celle-ci, s'imprègne de sa présence face à la mort qui vient. Il n'en est rien. Non, les assaillants ont trop besoin d'elle. Alors il la force à se relever, en vitesse, sans ménagement. Le trio repart en sens inverse, redescend les quelques marches qui les séparent de l'horreur. La dessinatrice, otage, se retrouve bientôt face à la porte des locaux. Une porte à code. Depuis des années, presque une décennie, Charlie Hebdo est la cible de menaces grandissantes. Des difficultés financières et une volonté de se faire plus discret ont amené au déménagement dans les locaux de la rue Appert. En tapant les quelques chiffres qui séparent l'enfer de la réalité, Coco peut presque entendre le rire de Cabu qui s'échappe. Il est 11h33. Les terroristes entrent dans la rédaction de Charlie. Coco est vivante. Ses amis n'ont aucune chance. Charb, Tignou, Cabu, Bernard Maris, Elsa Kaya, Volinsky, Mustapha Ourad et Philippe Honoré, tous membres de la rédac, sont tués. Michel Renaud, un invité, ainsi que le policier Franck Brin-Solaro, subissent eux aussi ce sort terrible. Rhys, l'autre directeur du journal, a le temps de se jeter au sol avant que les tirs ne commencent. Il a la vie sauve, malgré une blessure par balle. D'autres sont grièvement blessés. Simon Fieschi, Fabrice Nicolino luttent pour leur survie. Mais ceux qui ont survécu ce jour-là, en quelque sorte, sont partis en même temps que leurs copains qui jonchent le sol. Leur vie sera cabossée, à tout jamais. Longtemps, Coco se sentira coupable de cette matinée d'horreur. Mais contre la folie des hommes, avons-nous réellement un quelconque pouvoir d'action? S'ouvrent pour Paris plusieurs journées d'horreur. La rédaction de Charlie Hebdo n'est que la première étape d'un itinéraire de terreur. En plus de la mort de Frédéric Boisseau, c'est un policier qui prend en chasse les terroristes, Ahmed Merabé, qui perd la vie le même jour que l'équipe de Charlie. À 20h30, un jogger se fait tirer dessus à 5 reprises par un homme qu'il a eu le malheur de croiser. Il a la vie sauve. Son assaillant, lui, n'est ni identifié, ni retrouvé. Le lendemain du massacre, à Montrouge, un troisième terroriste, Amédi Koulibaly, entre en action. Vers 8h du matin, il tue une policière non loin d'une synagogue et d'une école juive. Le 9 janvier, il pénètre dans une épicerie juive, porte de Vincennes. Il fait 4 victimes supplémentaires, en 15 minutes. Il s'enferme avec des otages. Les forces de l'ordre, qui font déjà face à une prise d'otages menée par les frères Kouachi, depuis le matin même, sont face à une situation inédite avec ces deux fronts concomitants. Le duo meurtrier, lui, se jette sur les forces d'intervention peu avant 17h. Ils sont abattus. Il en va de même pour Koulibaly. Ses 26 otages sont saufs. Il n'empêche. On compte en tout et pour tout 17 morts à la suite des attentats. 3 jours, le destin de la France vient de basculer dans une horreur qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors. L'enquête qui s'ouvre va devoir déboucher sur un procès, et plus encore que le détail des horreurs de janvier. Leur hache, aujourd'hui, va s'évertuer à vous raconter une histoire différente, celle de la justice, qui finit toujours par s'imposer derrière l'effroi. Au tout début du mois de septembre 2020. Voilà plus de 5 ans que les locaux de Charlie Hebdo ont été baignés du sang de ses équipes, que la traque des frères Kouachi est terminée et que la France, l'Europe, le monde, vivent dans une espèce de torpeur terrible. À de nombreuses reprises, le terrorisme islamique a continué de distiller l'horreur au Bataclan, à Bruxelles. Le journal Charlie Hebdo, lui, s'est battu pour renaître de ses cendres. Demain s'ouvrira le grand procès des attentats de janvier 2015. La couverture médiatique de l'événement est ahurissante. Et Rhys cherche à faire passer un message. Depuis ce matin, son téléphone n'arrête pas de sonner. Le directeur de la publication du journal, un de ces hommes qui auraient dû mourir il y a 5 ans sous les balles de la terreur, n'a pas hésité longtemps au moment de faire partir le numéro 1467 à l'impression. Un fond noir, des lettres capitales jaunes, tout ça pour ça. Et au milieu de la page de couverture, quelques caricatures. Celles de Mahomet. Celles qui ont provoqué le déchaînement de violence ayant emporté ses amis. Stoïque, devant une tasse de café encore fumante, seul ou presque, dans les nouveaux locaux du journal, un lieu tenu secret, cerné par des policiers chargés de leur protection, il ne décroche pas immédiatement. Les notifications d'appels en absence se multiplient. Les journalistes de toutes les rédactions cherchent à obtenir sa réaction. Celle pour l'ouverture du procès, celle aussi pour la republication des caricatures. Rhys prend le temps, celui de rassembler ses idées, de se mettre en marche. Et puis tout va très vite. Une nouvelle sonnerie. Il décroche. Au bout du fil, un journaliste du Figaro. Rhys lui livre ses premières impressions. « Nous ne nous coucherons jamais. Nous ne renoncerons jamais. La haine qui nous a frappés est toujours là et depuis 2015, elle a pris le temps de muer, de changer d'aspect pour passer inaperçue et poursuivre sans bruit sa croisade impitoyable. » Plus tard, à ses confrères de France Télévisions, Rhys précisera sa pensée avec ces quelques mots. « J'ai voulu qu'on les publie parce que ce sont des pièces à conviction. C'est le mobile du crime. » Le mobile, le mot est sciemment choisi. Pourquoi ? Parce que la représentation du prophète, pour les sunnites par exemple, est un acte absolument interdit. Se moquer de lui, le caricaturer, est passible de la peine de mort. Charlie Hebdo en sait quelque chose. Mais à l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015, le journal persiste et signe. Le ton est donné. La republication des caricatures est une manière pour la rédaction de Charlie Hebdo de remettre l'église au milieu du village. Autrement dit, de mettre en avant l'élément central ayant entraîné l'attaque. Le procès qui s'ouvre à la suite de ce numéro de Charlie Hebdo est à la hauteur de l'enjeu. Il vient conclure des années d'enquête. Plus de 200 parties civiles, elles-mêmes représentées par une centaine d'avocats, viennent garnir le tribunal de Paris. Le box des accusés pourrait être vide. Après tout, les frères Kouachi et Koulibaly ont été abattus le 9 janvier 2015. Mais il n'en est rien. 14 complices présumés des terroristes feront face à la justice pour répondre de leurs actes. 11 sont présents, 3 sont en fuite à l'étranger et seront donc frappés du sort de la contumace. Le public aussi s'est massé. Beaucoup de jeunes sont là, des étudiants surtout. En quête de réponse, mais pas seulement. Ils viennent aussi démontrer quelque chose. Un acte sociétal, politique, fort, rendu visible par leur simple présence. D'emblée, la question qui se pose au cœur de ce réacteur judiciaire est un simple « Pourquoi ?». Il est pluriel, complexe. Chacun et chacune comprend dès le premier jour l'importance du moment à venir. Charlie Hebdo est sorti de l'ombre à plusieurs reprises tout au long de ses années d'existence. Mais avant 2015, il n'était pas rare de le considérer comme un organe de presse à la marge. Pourtant, lorsque s'ouvre le procès, l'hebdomadaire est devenu un symbole. Son histoire est particulière, inégale, difficile, et ce, bien avant les attentats de janvier 2015. Cette histoire commence par un événement majeur de l'histoire contemporaine française, la mort du général de Gaulle. De l'année 1970, le journal Harakiri se décide à parodier le décès. Tollé et censure. C'est alors que les équipes de rédaction se décident à publier sous un autre nom, Inciné Charlie Hebdo. Un nom qui tire son inspiration d'une BD publiée dans le même groupe d'édition. L'impertinence est d'emblée revendiquée par les équipes. Cavana en premier lieu. Cabu ou Volinsky, peu de temps après, cherche à heurter, à renverser le carcan établi par la société et les mœurs. Que cela soit religieux ou politique, peu importe, tout y passe. En 1982, premier coup d'arrêt. Peu d'abonnés. Une communauté de lecteurs assez maigre, faut bien le dire, et les journaux Harakiri et Charlie tirent leur révérence. Fin de l'histoire ? Non, pas tout à fait. Cabu et Philippe Val cherchent à retrouver cet esprit Charlie. Au début des années 90, ils vont sortir l'hebdomadaire La Grosse Bertha, qui dénonce sans aucun filtre les errements sociétaux. C'est à cette époque que Rhys intègre l'équipe des collaborateurs du journal. Il est accueilli par Charbe, Cabu et les autres. Pour la bande, c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est d'autant plus le cas que leur éditeur, de moins en moins en phase avec cette politique de provoque, serre la vis et provoque la fuite de ses talents. Très vite, Cavana leur donne son accord pour que le titre de Charlie Hebdo puisse renaître de ses cendres. C'est chose faite à la fin du mois de juin 1992 et après plus d'une décennie d'absence. La nouvelle équipe, portée par un Cabu aux anges de retourner à ses premières amours, se retrouve face à l'immense défi de survivre après des années de galères en tout genre. Cependant, cet impératif ne se fait jamais au détriment des convictions. La pub, l'armée, les politiques, tout le monde y passe. La religion y compris. Rien de nouveau, Charlie Hebdo a toujours été un journal montrant son opposition aux dogmes et aux écarts religieux. L'Église en premier chef est une des cibles de l'équipe. De nombreux mouvements catholiques, la plupart du temps intégristes et extrémistes, attaquent l'hebdomadaire en justice pour blasphème. Ils n'obtiendront jamais gain de cause, mais continueront à le menacer et à le poursuivre pendant de longues années. Charlie Hebdo est un habitué de la provoque, y compris sur le terrain des institutions religieuses. Sans jamais se renier, l'équipe composant le journal prend position ouvertement sur certains sujets sociétaux, de l'IVG au scandale pédocriminel visant certains membres du clergé. Ces premières saillies envers l'intégrisme islamique datent du début du nouveau millénaire, époque des attentats du 11 septembre et de l'arrivée au premier plan d'un certain Oussama Ben Laden. Cependant, un tournant a lieu en 2006. Un numéro spécial est consacré à l'intégrisme lié à l'islam avec en première de couverture une représentation du prophète Mahomet. Pourquoi ? Parce qu'en janvier 2006, un journal danois ayant publié des caricatures du prophète s'est retrouvé face à un véritable tsunami de réactions. Menaces de mort, organisation de manifestations dans plusieurs pays, incendie d'ambassade au Liban, conséquences économiques désastreuses pour le Danemark. En France, le scandale s'embrase lorsque le rédacteur en chef de France Soir se fait renvoyer à la suite de la publication de ses dessins. En soutien, Charlie Hebdo fait le choix de reprendre à son compte ses caricatures et de les agrémenter de nouvelles créations, donnant vie à ce numéro spécial. L'objectif, appliquer le même traitement aux errements cléricaux et à ceux venus de l'extrémisme islamique. 9 ans plus tard, les frères Kouachi commettent leur tuerie, hurlant à tout rompre dans la rue à la suite de l'attentat. Nous avons vengé le prophète. Et ce, alors même que Charlie, par ce numéro, cherchait à provoquer dans la délicatesse et dans le respect. Mahomet est représenté, certes, mais il est affligé par l'intégrisme. Sa représentation ne s'attaque donc pas à l'islam. Elle s'attaque aux extrêmes. Dès l'apparition, le choc est mondial. Les menaces de mort vont affluer. Politiquement, les soutiens sont rares. Le président de la République égratigne l'apparition du numéro. Une partie de la gauche s'offusque. Charlie est attaqué en justice par l'UOIF, la Ligue islamique mondiale, et pire, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bref, c'est l'engrenage. Charlie Hebdo, islamophobe, raciste. Ceux-là même qui ont tapé sur le nez des chrétiens et des juifs depuis des dizaines d'années. Difficile à croire. tribunal de Paris. Nous sommes le 3 septembre 2020, deuxième jour du procès. Hier, l'ouverture des hostilités a été le moment pour beaucoup de replonger avec émotion et effroi au cœur des attaques. Aujourd'hui risque bien d'être encore plus difficile à supporter. Maître Richard Malka est l'avocat de Charlie Hebdo depuis 1992. Il est au fond un membre de l'équipe à part entière. Il est certainement en train de vivre le moment le plus éprouvant de sa carrière. Il lui faut rester professionnel, alors même que la cour est en train de parler de la mort de ses amis et de ses proches. La veille, il a longtemps cru ne pas pouvoir y arriver. Mais ce matin, il est entré dans la salle, le couteau entre les dents. Et pour cause. L'un après l'autre, les accusés dans le box se lèvent, masque sur le nez. En cette période de crise sanitaire, on ne peut voir que leur regard. Les questions à leur sujet sont nombreuses. Quelle est leur part dans l'organisation et la réalisation de ces attentats? Peuvent-ils être condamnés pour terrorisme ou seulement pour association de malfaiteurs? Certains ont des cheveux, d'autres sont chauves, certains regardent droit devant eux, d'autres se contentent de fixer leurs pieds. L'un porte de grosses lunettes de vue noire, un autre est accoudé, les bras croisés. Leurs profils sont variés. On se demande bien ce qui a pu les pousser à participer à l'irréparable. Évidemment, trois fantômes